ces conneries.
C'est le canut info.
Ah, je savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit. Ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton alcoolique et ton fléchis. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends mis la chute dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est ta mise en faux.
Canu 102.2. Canu info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez,
paniquez. Attends, salut, vous êtes bien sur Radio Canu en direct du périmètre de sécurité de la fête des Lumières. On est entouré de policiers ici, on est à côté de la place Satonnet et c'est parti pour le Canu Info du vendredi. Et on va commencer dans la rubrique locale avec des informations sur la non-gratuité des transports à Lyon.
Bah oui, parce que du coup, à Lyon, avec la pollution, le préfet a décidé de mettre en place la circulation alternée à Lyon et Villeurbanne dès aujourd'hui.
Du coup, on vous en parlera un peu plus amplement tout à l'heure après le fil d'info. Et du coup, après pouvoir vous parler de la non-gratuité dans les transports à Lyon, on vous parlera du retour des survivants, du coup, un collectif anti-avortement qui fait son retour à Lyon demain.
Et ensuite, on va écouter un reportage fait à l'intérieur et au périmètre de la fête des Lumières.
Et ensuite, on passera à la rubrique nationale en vous parlant des interdictions de manifester qui ont été jugées à fond pour la première fois.
Et puis du coup, on restera dans la rubrique répression police et on vous parlera des armements de la police.
Ensuite, on vous parlera des grèves à la poste.
Et puis il y a encore une vitrine du PS qui est tombée, dommage.
Oh non ! Et après, à l'international, un reportage téléphonique en direct ou presque pour parler de la situation au Brésil.
Ah non, t'as avoué toute la vérité. Mais on va vous avouer aussi toute la vérité sur les bases de données biométriques en Inde.
Et évidemment, on vous fera notre tour hebdomadaire sur ce qui se passe au Kurdistan.
Avant le traditionnel agenda.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Allez-y, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
Et on ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous les bougez en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. En chantant résiste.
Et du coup, c'est la rubrique locale qui commence avec la non-gratuité des transports à Lyon. Du coup, circulation alternée à cause de la pollution à partir d'aujourd'hui. Et seuls les véhicules aux plaques d'immatriculation impair auront le droit de circuler aujourd'hui. Du coup, ce qui a été constaté ce matin par le maire du 3e et qui est aussi le vice-président de la métropole, donc Thierry Philippe, c'est que la gratuité des transports n'est pas d'actualité à Lyon. Alors du coup, quand on lui demande est-ce que c'est une mesure efficace de les rendre gratuits, il dit « Mon opinion est la même que celle de Gérard Collomb, qui est de dire non à la gratuité parce que ça coûte cher et parce que ça fait payer aux citoyens ce qui doit être payé par les utilisateurs. Voilà. Donc cette opinion du maire de Lyon, on peut quand même noter que ça n'a pas toujours été son opinion, puisque en 2014, Gérard Collomb avait mis en place la gratuité des transports durant un épisode de pollution. Et il se trouve que c'était quelques jours avant le premier tour des élections municipales, comme par hasard. La ville, elle mettra quand même en place la gratuité des transports le jeudi 8 décembre, à partir de 16h, parce que le 8 décembre, c'est la fête des Lumières. Donc, maintenant, on va parler des survivants à Lyon, pour rester dans la rubrique locale.
Et oui, et du coup, on a appris sur Street Press que le groupe anti-IVG Les Survivants s'implante à Lyon. Alors du coup, voilà, il y a un nouveau groupe qui s'appelle Les Survivants, qui va réaliser sa première action ce samedi à Lyon, du coup demain, devant un centre d'avortement, enfin c'est comme ça qu'il s'appelle ça, un hôpital quoi. Le soir même, Les Survivants tiendront un stand de vin chaud dans le centre de Lyon. Du coup, si vous voulez aller les rencontrer pour leur dire tout le mal que vous pensez d'eux, vous pouvez les chercher au milieu des Lumignons. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que Les Survivants ? Ça commence un peu en juin dernier, où il y a le lancement de ce mouvement-là, qui est porté par une personne qui s'appelle Émile Duport, devant le centre Pompidou à Paris, avec quelques dizaines de jeunes militants. Donc, il faut savoir que 4/5 d'entre eux s'étaient enroulés dans des rubans verts siglés « conformes » et le reste dans un rouge marqué « non conforme ». C'est vraiment quelque chose de très esthétisé, un peu, là, le mouvement des survivants. Donc, ils étaient avec leur petite banderole, les 4/5 en vert, le 5e en rouge. Et du coup, aux journalistes venus les interroger, ils affirment souffrir d'un traumatisme, le syndrome du survivant. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Et qu'importe si leurs parents n'ont pas avorté, c'est pas du tout la question. Pour eux, ce sont des survivants statistiques. Ils ont donc survécu à quoi ? À l'avortement, d'après eux. Donc en juillet, avec ses troupes, Émile Duport est allé taguer les trottoirs aux abords de 120 arènes de Pokémon Go. Du coup, c'est des endroits qui sont repérés grâce à l'application Pokémon Go, mais bon, des endroits dans Paris. De la silhouette du plus célèbre des Pokémon accolée au slogan « Et si Pikachu n'était jamais né ?» Donc on remarquera que Pikachu est né d'infographiste et non de reproduction biologique, mais visiblement ce n'est pas la question. En octobre, des militants interrompent aussi l'émission « Touche pas à mon poste » et remercient Cyril Hanouna d'exister. L'animateur a beau être controversé, pour les survivants, pense qu'il a le mérite d'être là. Donc au-delà du ridicule de ces interventions, qu'est-ce que c'est que du coup ce mouvement-là ? Donc ils appellent ça que c'est un concept psychomarketing. Donc comment est-ce qu'on fait pour marquer les esprits sur la question de l'avortement ? Donc les survivants pensent que s'il y a 220 000 avortements par an et 800 000 naissances, c'est qu'un cinquième de la population qu'ils présentent comme leurs frères et sœurs est mort avant d'être né. Donc une grande partie de la com' des survivants consiste à humaniser au maximum ces fœtus de moins de 12 semaines, qui est du coup le délai légal auquel l'avortement est autorisé, sauf exception médicale. Donc ce concept psychomarketing des survivants n'est pas l'invention d'Émile Duport, puisqu'il avait déjà été mis en avant par un premier groupe de survivants à la fin des années 90. Et à l'époque, ouvertement proche des milieux catho-tradis, le mouvement était resté ultra-marginal. C'est quand même vraiment inquiétant hein, de voir des gens qui se présentent comme ça. Et faut savoir que c'est des mouvements qui sont quand même extrêmement médiatisés, dont on entend parler dans les infos nationales, sur les grandes chaînes publiques, à la télévision. Et que toute leur action marketing, voilà, marque. Et c'est quand même des gens qui arrivent à se dire en guérilla contre le planning familial. Et bon, tout en s'assurant pour rester dans la légalité qu'ils ne visent que l'institution et pas les personnes qui le composent. Mais bon, c'est quand même vraiment extrêmement inquiétant d'être aussi virulent et violent contre des institutions qui essayent d'aider des personnes sur leurs problématiques sexuelles notamment. Et donc en plus de surfer sur les opérations de militants de pro-choix, ce sont des personnes qui ont créé plusieurs sites faisant mine d'informations sur l'avortement de manière neutre et détendue. Ils ont par exemple créé un site qui s'appelle afterbaze.com et entre une vidéo des humoristes de Whoop et un article titré « Oups, j'ai eu un pet vaginal », on trouve des témoignages de people traumatisés par un avortement. Donc c'est vraiment tout un système de communication qu'ils mettent en place. On vous fait croire que vous allez sur des sites où vous allez pouvoir discuter de vos problématiques sexuelles ou de vos problématiques voilà, liées à la question de la contraception et où... du fait d'avoir des enfants ou pas, et vous tombez sur de la propagande anti-avortement. Donc la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes a en réaction lancé un délit d'entrave numérique à l'avortement. Bon bah voilà, pour vous dire qu'ils font une action demain, que du coup c'est quand même hyper important de se mobiliser contre ce type de collectif, même si je pense que le ridicule parle pour eux et qu'ils peuvent quand même pas embrigader non plus beaucoup de personnes. Et on vous rappelle aussi, par exemple, il y a des collectifs qui, eux, sont très chouettes, comme Super Féministe, qui est la branche militante du planning familial, qui, elle, continue à œuvrer pour le droit au choix. Et voilà, vous pouvez aussi retrouver sur Internet, si vous voulez.
Et tout de suite, puisqu'on est actuellement dans le périmètre de sécurité de la Fête des Lumières, et ben on va faire un tour à la Fête des Lumières.
On ouvre les sacs, s'il vous plaît, les bestes.
Merci, monsieur.
Canu Info.
Monsieur, bonsoir.
Allez-y.
C'est bon, allez-y.
Bon sac. Allez-y, madame.
Bonsoir, monsieur.
Reportage.
Je suis là, si vous voulez.
C'est bon, allez-y.
Merci, bonne soirée. Hop, tenez-le. C'est bon. Merci.
Comme tous les 8 décembre, c'était jeudi soir, le premier jour de la Fête des Lumières. J'y suis allé avec des potes et un micro. Et rapidement, j'ai été attiré par un gros sens interdit lumineux.
Et alors ?
Et alors, j'ai interviewé un sens interdit pour la première fois de ma vie.
T'as interviewé un sens interdit ? Genre un panneau sens interdit ?
Ouais, ouais.
Ouais, alors en fait, j'ai un sac avec un manche et au bout duquel il y a un ballon rouge avec illuminé avec marqué sens interdit.
Comment tu t'es retrouvé là ce soir ?
En fait là c'est une mission d'intérim en fait que je fais. Voilà.
D'accord, et ils t'ont trouvé ça comment ?
En fait ça, on fait ça à plusieurs, on est un groupe d'étudiants donc qui travaillent ensemble et donc là on est plusieurs, j'ai mon ami qui est là et on est un peu partout dans Lyon, voilà, donc c'est un truc qu'on a fait en groupe.
Du coup tu fais quoi exactement ? Tu es juste sans interdit ou tu parles un peu aux gens ?
Je suis sans interdit et après je donne des informations si on m'en demande, voilà.
D'accord, et toi juste en termes sensibles, ça te fait quoi d'être en sans interdit en fait ?
Bah moi ça m'est un peu égal en fait, enfin moi ça me fait plutôt marrer donc voilà, puis après je bosse donc voilà, c'est pas, pour moi c'est pas un problème quoi.
D'accord, voilà. les contacts avec les gens sont cool ?
Ouais ça va, il y en a qui sont plus sympas que d'autres on va dire, enfin là il y a une dame qui était pas très très sympa, enfin qui m'a... En gros, qui visiblement ne voulait pas me parler à moi, je voulais parler qu'aux policiers. Mais sinon, la plupart ils sont sympas. Et bon, après, il y en a beaucoup qui prennent des photos, donc ça, bah voilà. Mais sinon, ça va, ils sont.
Ouais, tu vas retrouver ta tronche partout sur Facebook, quoi.
C'est possible. Mais voilà, bon, on va voir.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup, je crois que c'est la première fois que je fais une interview d'un sens interdit.
Après, je me suis frayé un passage rue de la République, et puis là, j'ai vu un mec habillé en fluo, et je suis allé lui demander ce qu'il faisait.
Là, ce soir, là, t'es en juste au corps jaune fluo.
Oui.
Qu'est-ce que tu fais en fait ?
En fait, je suis bénévole. J'aide les gens qui ne maîtrisent pas la ville de Lyon. Je les oriente. Ça, c'est mon rôle.
D'accord. Et t'es bénévole en fait ? T'es pas payé pour faire ça ?
Non.
D'accord. T'as postulé comment ? Pourquoi tu as décidé de faire ça ?
Mais parce que moi, j'aime accueillir les gens. Je suis un homme des relations publiques.
Ça, tes interactions avec les gens, ils te demandent quoi ?
Ils cherchent à savoir les points d'accès pour aller dans les... où il y a des animations. Et c'est tout ce qu'ils me demandent.
Il y a beaucoup d'explications à donner à cause notamment des rues qui sont fermées par la
police.
Oui,
il y a des explications à donner parce qu'on a tout un programme et avec ça, ça facilite les choses.
Et tu sais combien vous êtes de bénévoles comme ça ?
On est près de 300.
D'accord.
Ouais.
Et tu fais ça pendant les 3 jours ?
Oui, 3 jours. Jusqu'au 10.
D'accord. Bon courage, merci beaucoup.
Merci, je vous en prie.
Bonne soirée.
Pareillement.
Attends, il y a des bénévoles qui passent 3 jours à renseigner les visiteurs. C'est...
Ouais, c'est barge. Tu te demandes pourquoi ils font ça, en fait. Mais des fois, c'est un peu plus clair. Par exemple, j'ai rencontré une fille en BTS Tourisme qui était incitée à le faire dans le cadre de sa formation.
Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites pour la radio, s'il vous plaît ?
On fait des visites guidées en fait de la ville de Lyon.
D'accord.
Pour la Fête des Lumières.
Vous travaillez pour qui là ?
C'est chaud, moi. Pour la ville de Lyon.
D'accord.
C'est des groupes, par exemple, d'entreprises, comme le mat électrique.
Ouais.
Et donc les entreprises les envoient pour faire la visite des Lumières.
D'accord.
Puisque ce sont des entreprises qui sponsorisent la plupart des œuvres.
D'accord. Et du coup, vous avez un parcours là ?
Oui, des parcours déjà tracés.
Et donc concrètement, vous êtes toute la soirée avec votre petite lumière, avec un groupe qui vous suit ?
Oui.
Vous parlez un petit peu avec les gens quand même ?
Oui, on fait des arrêts suivant les points stratégiques et on explique donc l'histoire et les œuvres mises en place.
D'accord. Là, vous avez été embauché pour 3 jours ?
Moi, juste ce soir, c'est du volontariat, donc c'est chacun qui fait comme il veut.
D'accord. Qu'est-ce que vous avez décidé? Je veux travailler une soirée.
Oui, voilà.
Vous êtes bien payé pour faire ça?
C'est du volontariat.
C'est-à-dire que vous êtes bénévole?
Oui.
Et pourquoi vous avez décidé d'être bénévole pour la fête des lumières?
Je suis en BTS tourisme.
Une blague?
D'accord. Du coup, ça fait partie de votre formation? C'est quelque chose qui est valorisé par vos profs?
Oui. On doit faire des immersions. C'est
d'accord.
Pour ça.
Ok.
Mais les bourges qui suivent ces bénévoles, ils savent que ces personnes, elles font ça gratuitement?
Franchement, je crois qu'ils s'en fichent.
Bonsoir. Excusez-moi, est-ce que vous acceptez de répondre?
Désolée.
Vous faites quoi en fait, s'il vous plaît, juste?
Je suis en train de guider un groupe.
D'accord. Et vous êtes payé pour le faire?
Non, mais j'ai vraiment pas le temps de répondre.
D'accord.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous faites partie du groupe qui suit Mademoiselle?
Tout à fait.
Je peux vous poser une autre question? Vous venez d'où? Vous êtes venu pourquoi?
Adrien Barac, moi je suis au Crédit Agricole Centre-Est.
D'accord.
Et du coup, en tant que banque du territoire, pour nous, la fête des Lumières, c'est très symbolique. Donc pour nous, c'est important d'être là. On remercie Nakara qui nous invite sur cet événement, en tant que partenaire de l'événement. Et c'est du local, c'est des valeurs, c'est de l'histoire. Et puis surtout, après ce qui s'est passé l'année dernière, c'est important d'être là.
Ouais, c'est important pour vous d'être là ce soir.
Bah oui, pour 8 décembre, avec les lumignons, les lumières, et puis voilà, montrer qu'on est là.
D'accord, et là vous avez une visite guidée qui est organisée,
ouais,
pour vous?
Tout à fait, grâce à Nakara. Donc on a la chance de pouvoir un peu visiter avec les explications de notre guide, qui nous décrit à la fois l'histoire de Lyon, les œuvres, qu'est-ce que ça représente, la symbolique. Donc c'est un mix très sympa.
D'accord. Et vous doublez ça avec une réunion de travail ou c'est uniquement...
C'est vraiment un moment d'échange. Alors pour le coup, par ricochet, effectivement, un peu de travail, parce que ça nous donne l'occasion d'échanger sur des dossiers en cours à venir. Donc c'est joindre l'utile à l'agréable.
D'accord, très bien.
Voilà.
Vous savez que cette jeune femme est donc bénévole? Ça vous choque pas qu'on paye pas un peu des gens pour promener des gens comme vous?
Je savais pas.
D'accord.
Non, il est sympa celui-là. Bon, pas du tout caricatural. Et il y a que des bénévoles qui bossent sur la fête des Lumières?
Non, certains ils font la même chose et ils sont payés par des boîtes d'intérim ou des agences d'hôtesse.
On distingue pas les bénévoles en fait des non-bénévoles parce qu'on a les mêmes cahouets.
D'accord.
De la même couleur.
D'accord, vous êtes rémunéré en fait.
Exactement. Je travaille pour l'agence By Blush Shine.
D'accord.
Voilà.
Et c'est quoi, c'est plus une embauche pour la soirée?
Ouais, c'est un CDD. Pour les 3 jours là, je travaille. Juste pour la fête des Lumières.
D'accord, et c'est quoi votre rôle?
Je dois donner des indications sur le circuit à prendre pour les personnes participant à la fête des Lumières.
D'accord, voilà. Donc plus les artistes, etc.
Non, les personnes qui passent dans la rue, par exemple, qui ne savent pas comment aller à la place des terreaux, moi je leur indique la prochaine à droite.
Voilà. D'accord. Et ça se passe bien?
Ça se passe super bien. Les gens sont agréables. Voilà.
D'accord. Mais je pensais que vous étiez bénévole, parce que du coup, en fait, il y a des gens qui font...
Oui, il y a des bénévoles aussi, oui, j'ai vu. Mais non, en fait, on a les mêmes... Mais non.
C'est bizarre, c'est bien que vous soyez payé quand même.
Ben ouais, c'est pas mal. Ça fait des petits sous hein, quand on est étudiant ou quoi. C'est pas mal, ouais.
Alors bonsoir. Donc vous êtes habillé là avec des cahouets jaunes fluo. Vous
ouais.
avez un peu l'air d'avoir froid.
Oui. C'est parti du job.
Et c'est quoi votre job du coup précisément?
Alors au début on devait signaler parce qu'en fait il y a un sens, il y a une entrée et une sortie. Et donc on était en train de guider les gens. Mais là vu qu'il y a plus de monde, ça tombe de soi, enfin, ça va de soi. Donc on n'a pas besoin d'expliquer. Donc là si on est en point information.
D'accord. Et vous là vous travaillez directement pour la mairie de Lyon?
Non. Mon agence d'intérim.
Et vous êtes correctement payé?
Oui, mais ça va. En fait, on est payé en tarif de nuit à partir de 22h. Donc oui, on est bien payé.
D'accord.
C'est le SMIC, un petit peu plus du SMIC.
Et vous avez trouvé ce boulot comment? C'est l'agence d'intérim qui vous l'a...
Moi, en fait, je travaille pour une agence d'hôtesse accueil événementiel. Et c'est elle qui m'a mis sur cette mission.
Vous savez qu'il y a aussi des bénévoles qui font exactement la même chose que vous?
Ouais, on sait, ouais.
Et vous en pensez quoi?
Ils ont beaucoup de courage parce que franchement, c'est pas facile. Et savoir qu'on n'est pas payé, il faut vraiment avoir beaucoup de courage pour faire ça, je pense.
Ouais, moi je trouve ça étonnant, j'arrive pas trop à comprendre ce qui les motive.
Ouais, je pense qu'ils doivent être passionnés par la fête des Lumières, du coup ça leur fait plaisir de faire bénévole à la fête en fait.
Ouais. Allez messieurs dames, on avance s'il vous plaît.
Et du coup t'as interviewé qui d'autre?
Bah des tarés en tout genre, hein, notamment les témoins de Jéhovah et puis des évangélistes qui distribuaient des bibles.
Y'a de la place sur le côté gauche, on avance s'il vous plaît.
C'est une bible jeune homme.
Bonsoir.
Vous en voulez une?
Ouais, éventuellement, vous pouvez me raconter ce que vous faites?
Eh ben, on distribue des bibles aujourd'hui, demain et encore après-demain. Donc pour la fête des Lumières, on distribue des bibles. 5400 bibles.
D'accord.
Voilà. Donc c'est la fête des Lumières. Il y a un passage dans la Bible qui dit justement que la parole de Dieu, donc c'est une lanterne à nos pieds, donc c'est la lumière. Donc la parole de Dieu, pour nous, c'est une lumière qui éclaire pas mal de personnes, qui m'a éclairé moi à un moment venu. Donc on donne des bibles à qui veut bien la prendre, bien sûr. C'est entièrement gratuit. Absolument pas, c'est une église chrétienne. On achète des bibles avec nos revenus à nous et on les offre gratuitement. Voilà.
Les gens sont contents de les prendre?
Bah oui, franchement, on a eu un bon retour ce soir. Alors bon, après, il y a des gens qui sont...
La politique, ça chute rien, et on a quoi? Une fraîche, quoi? Je crois pas, je crois la cité qui brûle. Fire blazing wildly through our mind.
Et donc ça, c'était hier soir. Mais si samedi soir, tu n'as pas envie de profiter de la fête des Lumières, mais quand même de profiter de faire la fête dans la ville, alors on t'invite à ça.
Message aux bootleggers. Ce samedi 10 décembre, durant toute la nuit, Bootleg FM reprend les ondes pour se déployer dans les rues. Live et DJ Sud. Rap, techno, musique bizarre, anti-isoïdale, chimique acidulée et tourons de bruit, de paroles en tout genre. Rendez-vous à 18h, quelque part dans la ville. Hotline 06 05 68 72 66. Ramenez vos postes radio et vos enceintes portables. Plus il y aura de son, plus il y aura de bruit. On vous attend nombreux. Pour plus d'infos, 06 05 68 72 66.
Canu Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà. Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et voilà, après avoir fait la lumière sur les infos locales, nous voilà arrivés au national. Et on va commencer par vous parler des interdictions de manifester qui sont jugées aujourd'hui au tribunal administratif pour la première fois. Du coup, la question est posée sur le fond de est-ce qu'il y avait le droit de faire ces interdictions de manifester pendant la loi travail qui ont du coup été assignées à plus d'une centaine de personnes. Du coup, aujourd'hui, vendredi 9 décembre, la justice administrative a examiné pour la première fois des demandes d'annulation d'interdiction de manifester. Ces mesures de police administrative qui s'appuient sur la loi relative à l'état d'urgence ont visé plusieurs dizaines de personnes pendant le mouvement social contre la loi travail. Et du coup, il s'agissait pour le ministère de l'Intérieur, et en particulier à Paris, Rennes, Nantes, Toulouse, mais aussi Lyon, de soi-disant lutter contre les violences qui émaillaient régulièrement dans les cortèges anti-loi El Khomri. Alors en fait, c'est quand même plus de 130 personnes qui ont par exemple été interdites de participer à la manifestation nationale du 14 juin à Paris. Certains de ces arrêtés préfectoraux ont déjà été contestés devant le juge administratif, avec plus ou moins de succès, mais uniquement en référé liberté, c'est-à-dire dans le cas d'une procédure d'urgence au cours de laquelle le juge se prononce sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Rennes, c'est le tribunal administratif qui a appelé à se prononcer sur le fond et sur 5 dossiers, ce qui l'autorise un contrôle plus poussé de la légalité des arrêtés attaqués. Il y a au moins une quinzaine d'autres demandes d'annulation qui devraient être jugées au fond dans les prochaines semaines. Ces audiences donc viennent nourrir la critique qui est déjà extrêmement forte de l'état d'urgence, qui a aussi permis par exemple les assignations à résidence et les perquisitions administratives. Sur les 5 dossiers qui sont examinés aujourd'hui, le rapporteur public, qui assiste le juge administratif mais n'intervient pas dans le jugement, a demandé des annulations dans 2 cas. Cela concerne notamment Oussama, donc ce militant breton de 35 ans, conteste un arrêté pris le 27 juin par la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Sous peine d'être condamné à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende, Oussama n'avait pas le droit de séjourner dans le centre historique de Rennes et les jours de manifestation contre la loi El Khomri ou contre la violence policière, et ce jusqu'au 25 juillet. Pour justifier sa décision, le préfet évoque dans son arrêté les violences survenues lors d'une cinquantaine de manifestations. Il invoque également la forte sollicitation des forces de l'ordre face à la menace terroriste. On retrouve ce raisonnement général dans tous les arrêtés d'interdiction de manifester. Dans le cas d'Oussama, le préfet fait aussi valoir le passé du militant, déjà condamné pour violence sur agent et dégradation de biens à l'occasion de manifestations. Donc le préfet conclut qu'Oussama est susceptible de commettre des violences et qu'il a donc lieu de prendre un arrêté à son encontre. L'intéressé a un tout autre point de vue. Du coup, lui, il dit « J'ai participé à 3 manifestations à Rennes contre la loi travail. Je suis encore en période probatoire, donc je n'avais surtout pas à l'esprit de jeter des pavés. Le reste du temps, j'ai joué de l'accordéon dans des concerts de soutien ou participé à des manifestations à Guingamp et Saint-Brieuc. » Donc, du coup, Oussama ne comprend pas bien pourquoi il a été visé. Du coup, il se demande « Est-ce que c'est la paranoïa d'État sécuritaire ou est-ce qu'il teste les limites du système judiciaire par rapport aux abus de la police administrative ?» Ces interdictions sont un gros recul sur les principes démocratiques. C'est une utilisation de l'état d'urgence à des fins politiques. C'est un peu ça l'angle d'attaque de tous ces arrêtés d'interdiction de manifester, et notamment les avocats qui défendent ces personnes-là. Du coup, disent que c'est fait à des fins politiques. Dans l'un des arrêtés, la préfecture reproche ainsi à un Rennais de 29 ans d'être un militant actif de la mouvance ultra-gauche, de s'être grimé à la plupart des manifestations et d'avoir même été à l'initiative de la destruction d'un poteau supportant une caméra de surveillance. Seulement, en fait, une procédure judiciaire serait en cours, mais pour seule preuve, la préfecture fournit au tribunal une note blanche des services de renseignement. Pour le dire autrement, en fait, ils n'avaient aucune preuve et aucune raison officielle ou en tout cas légale d'interdire ces personnes d'aller dans les manifestations. Un autre aîné de 27 ans se voit reprocher d'avoir brûlé un drapeau français lors d'une manifestation. Il doit être jugé en janvier pour outrage au drapeau. Au-delà, la note blanche des services de renseignement fournis par la préfecture liste essentiellement sa participation à diverses manifestations contre la loi travail, anti-police, de soutien à un militant sous contrôle judiciaire, de soutien à un militant anarcho-autonome. Du coup, pour les avocats, ce qu'on reproche à leurs clients, c'est essentiellement d'avoir manifesté. Aucun n'a été condamné pour des violences, et du coup, l'avocat s'interroge, peut-on légitimement interdire à quelqu'un d'exercer le droit fondamental de manifester sur la base d'un soupçon. L'avocat rappelle par ailleurs dans ses requêtes que l'interdiction administrative de manifester n'existe pas dans la loi et qu'ainsi l'état d'urgence a été détourné. Les préfectures se sont toutes appuyées sur l'article 5 de la loi relative à l'état d'urgence qui permet, je cite, d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics. Dans les faits, l'interdiction de séjour s'est avérée être une interdiction de manifester. Alors, faut quand même voir que le préfet de l'Ille-et-Vilaine s'en défend. Et dans un de ses mémoires, il dit par exemple « J'ai édicté l'arrêté sans qu'il n'était bien évidemment question d'interdire préventivement de manifester. La personne visée avait tout loisir d'exercer sa liberté de manifester par ailleurs. »
En Espagne.
C'est ça. Du coup, en préconisant de faire droit à 2 demandes d'annulation sur les 5 qui lui sont soumises, le rapporteur public du tribunal administratif de Rennes ne s'est en tout cas pas orienté sur une décision de principe quant au fondement légal des arrêtés, mais c'est sûrement le prochain débat de fond qui attend le juge des libertés fondamentales. Et du coup, voilà, pour voir que c'est aussi des choses qui sont suivies encore juridiquement et que la justice est encore un recours et peut peut-être encore être une arme pour lutter contre les dérives et de l'état d'urgence et surtout de la manière dont des textes extrêmement larges sont appliqués. On aimerait bien aussi rappeler qu'au-delà du coup de ce qui s'est passé à Rennes aujourd'hui, il y a un blog qui s'est monté il y a quelques mois qui s'appelle Interdit avec un S de manif tout attaché, interdit de manif.noblog.org, qui donne de nombreux conseils juridiques pour les personnes qui ont reçu ces arrêtés d'interdiction de manifester et qui surtout pousse à une organisation collective pour sortir de l'isolement. Quand on le reçoit, on est tout seul généralement, il ne fait pas ça à tout un groupe de potes, et pour se mettre en lien avec des avocats. Et voilà, pour dire que c'est une résistance qui s'est organisée dès le premier jour de ces distributions d'arrêtés d'interdiction de manifester.
Et donc si la police peut interdire de manifester, c'est pas pour autant qu'il est interdit pour elle de tirer.
La police peut faire plein de trucs, c'est un peu Noël en fait. Du coup, là on a des premières versions, des petits aperçus d'un nouveau projet de loi qui devait être présenté au Parlement au cours du premier trimestre 2017. Le gouvernement voudrait élargir les cas où les policiers peuvent faire usage de leurs armes au-delà du strict cadre de la légitime défense. En fait, à l'approche de chaque élection présidentielle, le sujet réapparaît. En plus, suite aux manifestations policières provoquées par l'agression des quatre gardiens de la paix dans leur véhicule de service ciblé de cocktails Molotov à Viry-Châtillon le 8 octobre, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui est actuellement devenu Premier ministre, promet un plan d'urgence de 250 millions d'euros. Et ce plan n'est pas seulement matériel, parce que la question de la légitime défense, voire de la présomption de légitime défense des policiers, et des règles encadrant leur usage des armes à feu, revient sur la table de discussion. Donc ce projet de loi a été un peu préconisé par un rapport de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, remis le 22 novembre à Manuel Valls, et produit en 3 semaines, parce que c'est quand même la période électorale, donc il faut réfléchir très vite. Et du coup, ce texte prévoit d'élargir les cas où les policiers peuvent faire usage de leurs armes. Il y aurait un nouvel article L435 inséré dans le Code de sécurité intérieure qui définirait un régime commun d'usage des armes pour les policiers, les gendarmes, les douaniers et les militaires opérant sur le territoire français, qui prévoit 4 situations autorisant ces forces à ouvrir le feu, à chaque fois uniquement, ça c'est les petits mots qui devraient nous tranquilliser, en cas d'absolue nécessité et de manière proportionnée. Alors ces 4 cas sont du coup en situation de légitime défense, comme c'est actuellement le cas pour les policiers, mais également pour défendre un poste ou des personnes, pour arrêter un fugitif et pour immobiliser un véhicule. Donc évidemment, en cas d'absolue nécessité et stricte proportionnalité, mais comment évaluer ces 2 concepts, ça c'est pas très bien clair. Donc pour rappel, le cadre qui règle actuellement l'usage des armes par les policiers, les 100 000 policiers nationaux qui sont actuellement sur le territoire français, en fait ils sont soumis au même code pénal qu'un citoyen de droit commun. Ils n'ont en théorie le droit d'utiliser leur arme de service qu'en situation de légitime défense, donc pour répondre à un danger réel et immédiat dont la nature en justifie l'usage. Donc je vais pas vous lire le code qui définit la légitime défense, mais bon, du coup cette nouvelle loi ouvrirait un peu beaucoup plus de possibilités et surtout permettrait de mettre en place un peu le concept de présomption de légitime défense, où en fait ça serait plus à l'accusé de prouver qu'il a agi en cas de légitime défense, mais ça serait à la personne blessée ou à sa famille ou ses proches, si cette personne est décédée, de prouver que c'était pas un cas de légitime défense. Donc la charge de la preuve, elle serait complètement inversée. Et on rappelle que déjà, il y a une loi qui a été votée suite aux attaques à Paris et à Saint-Denis du 13 novembre 2015, qui renforce la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, qui a été promulguée en juin 2016. Désormais, un policier ou un gendarme n'est pas pénalement responsable s'il fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération dans un temps rapproché d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. Donc voilà, vous voyez bien que dans les termes des raisons réelles objectives d'estimer, voilà, il y a une grande marge de manœuvre et un gros flou. Mais donc, sous ce projet des lois, qu'est-ce qu'il y a en fait? Il y a plusieurs mythes sous-jacentes à ce projet de loi qu'on a un peu envie de démonter. Le premier, ça serait que de plus en plus de policiers seraient tués ou blessés en mission, selon le député Éric Ciotti, qui avait dit ça au lendemain des attaques. Et qui du coup déposait une proposition de loi pour lutter contre la sécurité judiciaire. En fait, du coup, c'est pas vrai déjà. Il n'y a pas de plus en plus de policiers qui sont tués en mission. Il y en a qui meurent, tout à fait. Entre 2008 et 2013, il y a 51 policiers qui sont décédés. 20 policiers sont morts en mission, donc en exerçant leur rôle de policier dans des actions où il y avait des tirs, etc. Mais les 30 restants sont décédés en service, c'est-à-dire dans des accidents liés à leur service, donc aux accidents de voiture ou pendant les entraînements. Donc la majorité. Et Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que la première cause de mortalité chez les policiers reste le suicide. En fait, 478 agents ont mis fin à leur jour entre 2004 et 2014. Donc, plus de 40 suicides par an et bien plus que les morts pendant le service. Le mythe numéro 2 qu'on a envie de démonter, c'est que du coup, les policiers ne pourraient pas faire usage des armes parce que leur cadre juridique ne leur permet pas. Alors, on vous apprend rien, mais en fait, on sait très bien que les policiers utilisent très souvent et qu'on sait pas nécessaire des armes contre des personnes qui ne sont pas forcément armées. Selon un recensement, il y aurait 445 personnes tuées lors d'une intervention des forces de l'ordre en un demi-siècle, sans compter les personnes blessées et les personnes mortes dans le cadre d'arrestations et pas par tir de balle, dont seulement un tiers était armé. L'autre dernier mythe qu'on a envie de démonter, c'est que le policier et le gendarme feraient l'objet d'une sévérité judiciaire particulière. Alors, on vous apprend toujours rien. En fait, l'immunité policière est et reste assez importante parce que, du coup, 22% des agents impliqués dans la mort d'un suspect ont été mis en examen et 5% seulement ont écopé d'une peine de prison. Donc, à notre connaissance, aucun policier n'a été condamné pour avoir riposté et tué un suspect qui ouvrait le feu. C'est que des cas où les personnes n'étaient pas armées ou ne tiraient pas ou avaient des armes blanches. Parce qu'après, il y a aussi la question de la proportionnalité. Est-ce que c'est proportionnel de tirer sur une personne qui a un couteau alors qu'on pourrait tirer une flashball, un taser, j'en vais faire d'autres trucs qui ont des conséquences un peu moins irréversibles. Bon, tout ça, c'est juste pour vous dire, faites gaffe parce que c'est quand même assez inquiétant ce qui se passe au niveau de la police et les autorités ont dans l'impression d'avoir bien envie d'élargir leur pouvoir.
Et oui, parce que c'est flippant, les flics sont de plus en plus armés, mais le problème, c'est que les facteurs et les factrices deviennent aussi des flics. Et oui, parce que La Poste est en train d'expérimenter un nouveau système où elle dit réinventer le service de proximité de La Poste. Qu'est-ce que ça veut dire, le service de proximité de La Poste? C'est le nouveau programme qui s'appelle Proxy Vigie Urbaine et qui va permettre à la factrice d'identifier de façon proactive les problèmes qui se situent dans votre commune. En effet, le facteur ou la factrice va mettre à votre service sa vigilance. Et oui, parce que ces pauvres facteurs et ces pauvres factrices, pendant leur tournée, vont se retrouver avec un smartphone connecté qui leur permettra de prendre en photo et de signaler géolocaliser des choses qu'ils remarquent dans la rue. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on leur demande de remarquer? On leur demande de remarquer des tags, des graffitis, et après tout un tas de problèmes de voirie, s'il y a des trous, des choses comme ça, mais aussi s'il y a des dégradations du mobilier urbain ou s'il y a des espaces verts qui sont saccagés. Parce que des massifs espaces verts sont saccagés et ça, c'est horrible, on ne peut pas le supporter. Alors rassurez-vous, pour l'instant, tous les facteurs et les factrices ne sont pas des flics, ce n'est que dans 10 communes de France, donc ça fait pas non plus des milliards de communes, mais pour l'instant juste 10, et ça coûte à peu près 3000 balles par an. Donc merci La Poste de devenir nos facteurs et nos factrices des flics.
Ben oui, parce que tout ça quand même, ça s'inscrit dans le gros programme de transformation de La Poste qui veut devenir, je cite, le premier opérateur des services à la personne. Et du coup, cette révolution, ça impose quand même une réorganisation tous les 2 ans de La Poste et une mutation vraiment à marche forcée de tous les services, et donc la création par exemple de Proxy Vigie. Ça amène surtout à ce que par exemple des collectifs de postiers, ils ont remarqué que à la mi-septembre, une série de suicides de facteurs, dont 3 étaient reconnus comme accidents du travail, et notamment dans la branche service courrier colis. Donc ça a un prix aussi de mettre en place Proxy Vigie cette super application de vigilance. Et donc pour vous dire qu'il y avait une grève nationale hier de La Poste qui lutte sur toute cette réorganisation et cette transformation qui impose des rythmes de travail impossibles à suivre pour les facteurs, les factrices, les postiers et les postières. Et aussi pour vous rappeler que quand même effectivement derrière tout ça c'est l'État qui est le seul actionnaire pour l'instant de La Poste, mais qu'on se demande à vouloir tant faire des profits avec une institution qui est censée être une association de service public si on ne voudrait pas aussi multiplier les actionnaires. Et en tout cas, ça nous amène à dire qu'on est un peu vénère contre l'État, non?
Et ouais, on n'est pas content, on n'est pas content à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Pourquoi on n'est pas content? Parce que encore une fois, mes amis, le local du PS a vu ses vitrines brisées. Cela fait pas moins de 5 fois depuis 2014 que la section PS de Malakoff se fait déboîter sa vitrine. Alors ça, c'est pas de chance, parce qu'en fait, eux, ils disent c'est pénible de se mobiliser pour ces choses-là. On perd du temps. Et ouais, on perd du temps pendant ce temps-là. On peut pas niquer le code du travail ou les manifestants et les manifestantes. Et du coup, ils trouvent qu'on s'attaque à une certaine forme de démocratie, laquelle, je vous le demande.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Bonsoir, alors on est très content de t'avoir sur les ondes de Radio Canu pour pouvoir faire un petit point sur la situation au Brésil actuellement. Déjà bonsoir, et est-ce qu'on peut commencer par faire un petit résumé de ce qui a pu se passer depuis un an, de tout ce grand scandale de corruption autour de la Petrobras et de ce qu'on a appelé le lavage à dents?
Alors oui, tout à fait. Alors ça c'est un peu une longue histoire qui commence avec la perte un peu de confiance de la population dans le PT qui était au pouvoir depuis 10 ans.
Le PT c'est le Parti des Travailleurs de Lula et de...
Oui, tout à fait, qui sont arrivés au début des années 2000 et qui ont mis en place en fait une politique de réduction des inégalités, enfin, en tout cas de réduction de la misère et de construction d'un certain nombre de droits sociaux. Ça s'est plutôt bien passé pendant les deux mandats Lula, et ça a commencé à moins bien se passer avec Dilma. Pourquoi? Bah, parce que d'une part elle a eu moins de moyens pour faire sa politique, puisqu'en fait en gros le prix des matières premières ayant baissé, ils ont eu moins de marge de manœuvre, ils ont commencé à mettre en place des politiques néolibérales parce qu'ils voulaient pas attaquer les privilèges des plus riches. Et du coup, forcément, les gens ont commencé à moins aimer le gouvernement. À ce moment-là, il y a eu aussi les scandales autour de la Coupe du Monde, donc les coûts démesurés des stades, on s'en rappelle, les expulsions de favela qui a fait pas mal de polémiques. Et il y a eu la grosse affaire de la Petrobras. La Petrobras, c'est l'entreprise brésilienne publique de pétrole, dans laquelle tous les partis politiques tapaient pour financer leur campagne et pour s'enrichir personnellement également aussi de temps en temps. Ça a été rendu public et ça a commencé à... On a vu commencer à tomber de nombreux politiques, de droite comme de gauche, et ça a fortement attaqué du coup la légitimité du gouvernement.
Et est-ce qu'on a une idée à peu près des sommes en fait qui ont été...
Je les ai plus en tête, mais c'est vraiment des millions et des millions de reais. Les dirigeants de la compagnie pétrolière disaient même que ça finissait par mettre en danger la compagnie de tant d'argent qui puisait. Alors qu'on parle quand même d'une entreprise qui représente 10% du PIB brésilien et qui est une des plus grosses entreprises du monde, en fait. Donc c'était vraiment énormément d'argent.
Et du coup, en conséquence de toute cette histoire, du coup, la présidente, enfin l'ex-présidente maintenant, Dilma, a été destituée. Ça s'est passé comment, cette histoire-là?
Ouais. Alors en fait, du coup, pourquoi je reviens sur toutes ces questions de baisse de popularité? Parce qu'en fait, elle a été destituée, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, à cause de ces questions de corruption, puisqu'en fait, elle n'est accusée de rien. Et en fait, elle n'est ni accusée ni condamnée. Elle, pour le coup, a priori, au niveau de la justice, elle a les mains propres, même si on peut se demander si elle n'était pas au courant d'un certain nombre de choses, mais bon. Mais en gros, la droite s'est retrouvée à un moment où elle a voulu profiter de la popularité croissante du gouvernement pour revenir aux affaires toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début des années 2000, la gauche est arrivée au pouvoir en coalition avec certaines parties de la droite. Cette droite, du coup, qui commençait à vraiment vouloir mettre fin aux politiques de construction de droits sociaux, à vouloir, on va dire, remettre les pauvres à leur place, après une dizaine d'années d'évolution, et en même temps, qui avait peur pour elle, puisqu'en fait, Dilma, elle avait aussi la caractéristique de pas particulièrement protéger les corrompus, c'est-à-dire que, contrairement à la plupart des gouvernements précédents, elle laissait tomber les politiciens qui se retrouvaient accusés de corruption et donc qui étaient la plupart du temps condamnés. Donc du coup la droite a eu chaud, a commencé à avoir un peu chaud et donc a profité de l'impopularité du gouvernement à la fois pour imposer des politiques qui n'arrivaient pas à imposer par les élections et à la fois pour se protéger des opérations anticorruption qui les menaçaient au même titre que la gauche. Et donc, en fait, ça a mené à cette destitution de Dilma Rousseff, qui n'était pas du coup, qui était purement politique, en fait, qui n'était pas du tout liée à des questions judiciaires.
Et du coup, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui parlent d'un coup d'État carrément au Brésil, parce que c'est qui a remplacé Dilma et c'est qui est au gouvernement aujourd'hui?
Ah ouais, alors du coup, oui, moi je suis d'accord pour dire que c'est un coup d'État. C'est un coup d'État dans le sens en fait où c'est une partie de la classe politique qui a réussi à revenir au pouvoir sans passer par les élections. C'est-à-dire que c'est un projet politique qui avait été refusé par les Brésiliens à toutes les élections depuis, enfin présidentielles en tout cas, depuis le début des années 2000, qui réussit à s'imposer par une manœuvre politicienne. Et donc qui c'est qui se retrouve au pouvoir? C'est le vice-président Dilma Rousseff, Michel Temer, qui est un gars de droite, parce qu'en fait, c'est compliqué, mais le système brésilien ne fonctionne que par coalition. Et donc, du coup, le PT avait fait le choix de faire des coalitions avec la droite pour gouverner. Et donc, c'est cette droite-là qui se débarrasse du Parti des Travailleurs et qui se retrouve au pouvoir. Et donc, que fait cette droite-là c'est du coup premièrement un agenda néolibéral hyper marqué. Donc, c'était déjà le cas un peu avec Dilma Rousseff, qui en fait du coup elle aussi d'une certaine mesure avait déjà accepté d'un peu congeler les programmes sociaux, en tout cas de ralentir l'expansion des programmes sociaux pour rétablir les comptes publics plutôt que d'imposer les plus riches. Alors là, on est sur la même politique, mais à des niveaux, on va dire, vraiment plus élevés, puisqu'en fait, on va peut-être y venir plus tard, mais il y a de grosses manifestations de gauche au Brésil en ce moment contre un projet de réforme constitutionnelle qui voudrait du coup constitutionnaliser le gel des dépenses publiques de santé et d'éducation pour les 20 prochaines années.
Donc c'est-à-dire que pendant 20 ans, plus aucune dépense, entre guillemets, pour les personnes qui pourraient pas payer par elles-mêmes tout ce qui peut être santé ou éducation ou...
Bah en fait voilà, ouais. En fait ils vont pas c'est pas plus aucune dépense, c'est plus aucune augmentation des dépenses, mais on est dans le cadre d'un pays jeune avec une forte augmentation des besoins. Et en fait je laisse ces dépenses là dans un contexte où déjà beaucoup de gens n'y ont pas encore accès, c'est en fait un recul pour tout le monde, quoi. Enfin, dans un contexte où les écoles sont vraiment sous-dotées en moyens et où les hôpitaux sont sous-dotés en moyens, si on n'investit pas dedans, en fait, c'est le service public qui dégrade.
Parce que donc effectivement, en ce moment, il y a un peu des grosses manifestations de rue. Il y a notamment le 16 novembre, là, il y a le Parlement qui a été envahi. Il y a eu des échauffourées devant l'Assemblée de Rio. Enfin, c'est un vrai mouvement social qui est en train de se passer ou c'est juste une contestation à la marge?
Non, je pense que c'est un vrai mouvement social. Il va y encore avoir une grosse manif le 13, là, le jour du vote de cette loi. Après, le problème, bon, je sais pas sur quoi vraiment ça va déboucher. Je sais. En fait, ce mouvement-là, il a du mal à se traduire politiquement vraiment, puisqu'il y a un fort discrédit de tous les partis. Et du coup, avec vraiment une hégémonie de la droite sur, sur les différents niveaux du pouvoir. Donc je me demande un peu jusqu'où ça va aller. Là, on a vu par exemple, enfin juste pour revenir sur cette mainmise de la droite et du coup sur cette difficulté du mouvement social à peser sur les orientations politiques au Brésil. On a vu là cette semaine que le président du Sénat a été mis en examen pour détournement de fonds. Et en fait, du coup, la Cour suprême brésilienne lui a produit une injonction judiciaire pour qu'il soit suspendu. Et en fait, le président du Sénat a refusé de rendre sa place, de démissionner. Et le gouvernement a fait pression sur la Cour suprême pour que la Cour suprême modifie son vote. Et au final, il se maintient au pouvoir. Et donc, en fait, pourquoi ce gars-là a absolument été sauvé par le gouvernement? Parce qu'il est celui qui mène cette réforme constitutionnelle pour justement geler les dépenses sociales. Donc en fait, ça c'est le fer de lance de la politique du gouvernement. Et c'est sur quoi ils veulent pas reculer, et ils arrivent même à faire plier du coup la Cour suprême pour maintenir leur agenda politique.
Ok, ben écoute, on a l'impression que c'est pas la fête du slip au Brésil, mais en tout cas, on te remercie, puis peut-être qu'on se rappelle la semaine prochaine pour que tu nous notes des nouvelles de la manif du 13, puis peut-être qu'on parle un petit peu des écoles qui sont occupées au Brésil en ce moment.
Eh ben, avec plaisir.
Ouais, eh ben merci alors, puis ben, bonne soirée. Ciao.
Allez, salut. T'as...
Et du coup, maintenant, on part en Inde avec le projet ADAR, qui veut dire la base, lancé en 2010 et porté par le gouvernement indien. Donc, c'est un projet de création d'une base de données biométriques qui a déjà numérisé les empreintes digitales, les iris et le visage de plus d'un milliard d'habitants. L'objectif annoncé est d'intégrer l'ensemble des Indiens dans les registres de l'administration, ce qui faciliterait la redistribution d'aides sociales. Donc, des maisons sont réquisitionnées pour installer le dispositif d'enregistrement des données. Et il s'agit de la plus vaste opération d'enregistrement biométrique du monde. Le projet ADAR attribue ainsi aux résidents de l'Inde un numéro d'identité unique à 12 chiffres. Et avant d'en recevoir un, chacun doit se plier au jeu de l'identification en fournissant 3 données biométriques. Donc, je disais empreinte, iris et portrait. Ça a été lancé par le parti du Congrès, donc centre-gauche, et puis poursuivi après par le parti nationaliste BJP, et donc à partir de 2014. Les dirigeants du pays justifient cette opération au nom de la lutte contre la corruption et le vol, et également pour donner une existence officielle à des millions d'Indiens inconnus des registres administratifs. Donc, il y a des maternités qui ont ouvert leurs portes pour qu'on puisse scanner les nouveau-nés dès leur naissance. Et assez rapidement, en fait, c'est devenu complètement impossible de pas être enregistré sur l'ADAR. Donc, tout d'abord, les habitants qui refusent de se faire enregistrer risquent de ne plus percevoir les aides qui leur sont attribuées. Et ensuite, les 140 millions d'utilisateurs de gaz subventionnés doivent obligatoirement fournir leur numéro depuis la semaine dernière. Ça, c'est passé. On a vu accès aux aides sociales, à l'énergie, mais il y a aussi pour être inscrit à la fac, bénéficier du tarif normal pour prendre le train et même maintenant pour se marier. Le gouvernement a annoncé à l'automne sa décision de conserver 7 ans les informations de toutes les transactions effectuées qui sont enregistrées grâce au numéro d'identification. Et ces informations peuvent être consultées chaque fois que la sécurité nationale est jugée en jeu. Donc cette gigantesque opération a un coût, bien sûr, 850 millions de dollars. Et c'est une entreprise française qui touche le jackpot avec ce marché. Donc en 6 ans, il y a eu 1 milliard d'identités qui ont été créées. Et au rythme d'un million d'enregistrements par jour. Les 250 millions d'Indiens restants devraient intégrer la colossale base de données d'ici avril 2017. Et là-dessus, je cite un cadre de Safran qui est fier de dire que, à titre de comparaison, à ce rythme, la population française aurait été enregistrée en 2 mois. Donc les grandes entreprises chargées de l'intendance, donc on a vu Saint-Franc, il y en a aussi d'autres, Saint-Franc à 75% des enregistrements. Et en fait, du coup, ils sont bien contents parce qu'il y a de nombreux gouvernements qui se sont montrés aussi intéressés par ce dispositif en voyant les effets que ça avait en Inde. Donc voilà, c'est une entreprise qui s'occupe de passeports biométriques en France aussi. Et puis, du coup, ils ont eu des commandes du côté du Kenya, de la Côte d'Ivoire, des États-Unis, et puis aussi du côté des camps en Jordanie, avec des Syriens qui peuvent toucher la nourriture qui leur est accordée par le programme alimentaire mondial une fois qu'ils se font scanner leurs iris. Du coup, après l'Inde, il y a eu un gros succès pour ces entreprises qui réussissent de plus en plus à vendre leurs dispositifs de flicage aux gouvernements du monde entier.
Et rapidement, une bonne nouvelle des États-Unis. Les Sioux de la réserve de Standing Rock dans le Dakota du Nord viennent de remporter une grande victoire le 4 décembre dernier. En fait, ces tribus amérindiennes et des militants écologistes sont depuis avril 2016 en lutte contre un projet d'eau oléoduc qui s'appelle le Dakota Access Pipeline. Et du coup, depuis le 1er avril, ils occupent ils ont créé un camp de résistance, donc une espèce de ZAD, sur un terrain privé acheté pour 18 millions de dollars par la société exploitante, la Energy Transfer Partners. Malgré les plusieurs recours juridiques, la construction de l'oléoduc avait débuté en mai 2016. L'administration Obama avait gelé pendant un instant le projet pour apaiser les tensions, mais les travaux avaient redémarré en octobre avec une forte répression de cette résistance. Et bien, le 4 décembre, le corps des ingénieurs de l'armée américaine, oui, c'est un peu fou, mais c'est eux, a annoncé qu'il refusait à la société pétrolière un permis de forage sous la rivière Missouri. La secrétaire adjointe aux travaux civils de l'armée de terre précise dans un communiqué que le gouvernement va entreprendre une étude d'impact environnemental complète et étudier des tracés alternatifs. Donc cette déclaration stoppe officiellement la construction du pipeline, l'oléoduc. Mais bon, on sait toujours pas si la société exploitante va faire un recours. Et on sait très bien que sous Donald Trump, tout est possible, sachant qu'il a bien investi beaucoup, beaucoup d'argent dans ce projet.
Et maintenant, les news du Kurdistan.
Au Kurdistan du Nord, ou Bakour, l'État turc continue ses attaques envers la population du Kurdistan et les institutions sociales et politiques que les Kurdes étaient parvenus à mettre en place ces dernières années. Comme depuis des semaines, les attaques, arrestations, assassinats et destructions de villes continuent. Après l'arrestation de ses dirigeants, l'État turc continue la répression visant directement le HDP, Parti démocratique des peuples, un parti qui regroupe différents groupes de gauche révolutionnaire turque et kurde. En juin 2015, le HDP avait créé la surprise par un score particulièrement élevé aux élections parlementaires. L'actuel président turc, Recep Tayyip Erdogan, se sentant alors menacé, abat alors une répression toujours plus dure jusqu'à aujourd'hui contre ce parti et ses membres. Dans le cadre de ces opérations, 4 personnes ont été arrêtées à El Azeg, 6 à Batman et 6 à Adiyaman. La répression touche particulièrement les municipalités. Lors d'une opération contre celle de Ertuş, 37 personnes ont été arrêtées. C'est aussi le cas des commères de villes de Bitlis, Güroymak, Kızıltepe et Adıyaman. La police a effectué un raid sur la municipalité de Artuklu et tient actuellement un siège contre celle de Şemtinli, empêchant ainsi les officiers municipaux de se rendre au travail. Lors du siège, les commères et le coprésident du HDP de la ville ont été arrêtés. Une explosion a retenti à checkpoint de Dersim. Sans que leur nombre soit connu, un grand nombre de blessés et de morts sont à déplorer. La route qui relie Dersim à Ovacık a été fermée. Un couvre-feu a été de nouveau instauré dans les villes déjà très touchées par les états de siège, imposés de plus près d'un an, à Silvan, situé dans le district de Ahmet, et à Nusaybin, situé dans le district de Mardin. Sara Aktaş, représentante du KCJE, a été arrêtée à l'aéroport d'Istanbul le 28 novembre. Le KCJE, le Congrès des femmes libres, est l'organisation des femmes au sein du mouvement kurde. Face à une telle répression, la résistance continue dans les villes, dans les montagnes et en prison. Entre le 23 et le 28 novembre, la guérilla du PKK a mené une vaste opération contre l'armée turque, simultanément à Ahmet, Jolemerk, Şirner et Kandil. 11 soldats turcs ont été tués. Dans la ville de Şirner, le YPG a également tué 2 soldats en réponse à la répression et à la destruction de la ville. Le PKK mène depuis le 4 décembre une opération dans les monts Zagros, avec la promesse d'infliger de grosses pertes à l'armée turque. Demirtas, coprésident du HDP, a déclaré depuis sa prison que la résistance continuerait même en détention.
Et maintenant,
l'agenda.
Agenda.
Alors, pour commencer, on vous rappelle qu'il y a une exposition sur la trêve hivernale Sainte-Rue-Saint-Polycarpe dans le premier arrondissement. Donc ça, ça fait un mois que ça a commencé et puis c'est encore là pour une semaine, alors dépêchez-vous, sinon vous allez la rater. Ce soir, il y a aussi une conférence formation contre la misogynie. C'est organisé par la commission, par une commission de la CGA, mais pas réservée uniquement à eux. Et c'est à partir de 18h30, mais c'est encore temps d'y aller parce que c'est jusqu'à 21h30. Du coup, c'est à la Plume Noire. Ensuite, vous avez aussi en ce moment le Lyon Antifa Fest. Donc du coup, ça commence ce soir avec des concerts, mais de toute façon, il n'y a plus de place. Et puis, ça continue aussi demain. Et demain, il y a des conférences, notamment sur l'homophobie et la transphobie. Ça, c'est à la librairie La Griffe à 15h. Et à 16h, vous avez une conférence sur l'état des luttes au Kurdistan, au centre culturel de la Mésopotamie. C'est pas facile à dire quand même. 11 rue Mazagran. Et ensuite, il y a aussi des concerts le soir au CCO de Villeurbanne. Et puis, samedi 10, librairie Terre des Livres des Algériennes en France à l'heure de la décolonisation. Ensuite, pour dimanche, c'est les femmes de Turquie et du Kurdistan ne sont pas seules. Donc, rassemblement à 15h30. Pardon. Et puis ensuite, je vous invite à aller sur Rébellion, consulter la suite de l'agenda. En attendant,
paniquez pas.
Mais qu'est-ce que
tout de suite, c'est Noise Pollution.